Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Allez, on est reparti avec notre débrief de la tech. Claudia Cohen, journaliste chez Bloomberg. Luc Julia, qui nous fait l'amitié d'être ici ce soir avec nous, expert en IA, objets connectés. Et bien entendu, auteur des livres que vous pouvez retrouver sur les meilleures librairies en ligne, et mais aussi en papier. On peut toujours y aller. Et Alain Goudet, directeur général adjoint de Neoma Business School. Je suis perdu dans mes fiches, mais je vais m'y retrouver. On va parler de ce premier sujet sur TikTok. Voilà, j'y arrive. TikTok qui veut se muer en super app. Raconte-nous un petit peu ce que TikTok veut faire.
En fait, ils ont lancé un service sur lequel tu peux réserver tes vacances, des loisirs, sans jamais quitter l'application. Et en fait, donc tu fais ta recherche et tu restes sur l'application jusqu'à la phase finale de paiement. Ils se sont mis en partenariat avec plusieurs sites, comme par exemple Booking, Expedia. Et donc, en fait, de A à Z, tu restes sur l'application. Avant, tu sais, moi personnellement, je n'ai pas TikTok, mais on pouvait aller dessus chercher un resto à réserver, chercher des idées de vacances. Là, en fait, tu peux tout faire. Et l'idée, en fait...
Tu peux payer aussi ?
Tu peux payer, mais du coup, via le partenariat qu'ils ont avec... parce qu'évidemment, ils n'ont pas leur propre service de paiement, mais avec leur partenariat Booking et autres, tu peux payer, en fait. Donc, c'est vraiment... Tu restes de A à Z sur l'application. Et en fait, c'est super intéressant parce qu'on en a beaucoup parlé sur ce plateau plein de fois. C'est un peu la volonté pour TikTok d'essayer, comme d'autres réseaux sociaux essayent aussi, de faire une super app parce que...
Il me semble qu'un certain Elon Musk en avait parlé à l'époque. X va être la super app.
On l'a pas vu pour l'instant.
On l'a pas vu.
Et c'est vrai que t'as le côté où TikTok a un peu détrôné Instagram dans ce qui est recherche de loisirs, de divertissement, etc. Mais à chaque fois, tu devais sortir de l'application si tu voulais booker. Et là, c'est un moyen intelligent de garder les gens dessus. Et en fait, moi, je pense que c'est que le début de ce que peut proposer TikTok. Là, j'ai cité certains services que tu peux booker, mais demain, il y aura sans doute beaucoup d'autres choses aussi. Et en fait, ça montre que aujourd'hui tout le monde se fait concurrence dans l'économie de l'attention. Et en fait, un site directement comme Booking, ça représente aussi une certaine concurrence pour TikTok. Et à côté, dans ce nouveau service qu'a lancé TikTok, tu peux aussi, par exemple, il avait sorti un peu avant, mais du coup c'est accessible aussi maintenant, tu peux par exemple visionner des espèces de très courts métrages de 5 minutes. Il y a aussi, ça il l'avait lancé aussi il y a quelques mois, des petits jeux vidéo, mais tu vois, comme ça.
Le but, c'est de nous maintenir dedans.
Le but, c'est de te faire rester toute la vie sur TikTok. Et d'aller fidéliser aussi une audience un peu plus âgée aussi.
16 milliards de ventes aux États-Unis en 2026, TikTok. TikTok Shop a généré 16 milliards de dollars de ventes. Et d'ailleurs, c'est pour ça un petit peu que cette grande bataille que l'on suivait, TikTok, Donald Trump qui voulait que TikTok ne soit plus aux États-Unis, soit passe sous pavillon américain, au moins sur cette partie-là. On comprend un peu derrière le business de tout ça. Et puis on voit, quand on parle super app, on pense à qui? On pense à WeChat en Chine qui maîtrise tout ça. Par contre, Luc, je reviens sur. Alors là, je reviens au début de l'émission. Tout à l'heure, je disais, tu avais fait une tribune à l'époque dans Challenge, où tu expliquais justement que c'est pas aussi simple quand on est un réseau social de dire tiens, venez chez moi, réservez votre hôtel, et puis une fois que c'est réservé, payez-le. Mais là, il faut des licences,
C'est ce qu'a fait abandonner OpenAI au mois d'octobre-novembre l'année dernière. OpenAI avait tenté de faire une super app et de te faire acheter des trucs. Et donc, ils avaient aussi lié des partenariats avec différents... C'était surtout des systèmes de paiement avec qui ils avaient lié des partenariats. Et ça n'avait pas marché pour une raison simple, en fait, aux États-Unis. C'est que chaque comté...
Mais c'est même pas l'État, c'est le comté.
Qui correspond au canton chez nous. Chaque canton, et donc il y a des milliers de cantons aux États-Unis, chaque canton a sa taxe particulière. Et donc il fallait qu'ils aient des représentants dans chaque canton aux États-Unis.
Oula,
Donc bon... Terminado. Donc ça a été rapide. Donc après ils se sont dit on va faire des partenariats effectivement plus avec des, on va monter un peu dans la
l'écosystème,
dans la chaîne de valeur. Donc on va faire des partenariats avec des gens qui sont déjà installés dans des spécialités et qui peuvent avoir des systèmes de paiement comme
Booking et tout ça. Des fintechs,
des spécialistes vraiment dans des domaines particuliers. Mais c'était au moment aussi en novembre-octobre l'année dernière, ça se passait moyen pour Altman et il a tout abandonné et ils ont complètement laissé tomber leur super app.
Ça veut dire, Alain, aussi que autour de cette super app, il y a aussi des défis juridiques, réglementaires, ce que vient de souligner Luc. Mais ça, enfin, on se dit quand même que c'est une transformation qui change la donne.
Alors, il y a énormément de défis. Il y a effectivement déjà des défis techniques, juridiques, réglementaires. Et puis, il y a aussi la clarté du business model. Hein. Typiquement, OpenAI a aussi abandonné ce sujet pour se recentrer sur une approche très B2B autour de l'IA, génératrice de valeur, hein, en se transformant en quasi ESN pour accompagner les entreprises sur des aspects professionnels qui génèrent quand même un peu plus de valeur que du B2C un peu ouvert à tout le monde.
Ce pourquoi était arrivé d'ailleurs Fujisimo, hein, est arrivé pour mettre tout ça en place.
Donc c'est vrai que voilà, pour OpenAI, ça a été un gros recentrage en fait, hein, tout simplement sur leur cœur d'activité. On rappelle quand même qu'il y a leur fameuse introduction en bourse qui ne cesse d'être retardée, mais voilà, il y a un peu de rationalité qui a été mise. Concernant TikTok, je rejoins ce que disait Claudia, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on est sur la guerre de l'attention. Les gros acteurs que sont, on évoquait Google là au début de l'émission, ou TikTok ou d'autres qu'on pourrait citer, en fait, se livrent une bataille sans merci pour que, à partir du moment où on est sur leur interface, on y reste, si possible, le plus longtemps possible, parce que qu'est-ce qui se passe derrière ça? Il y a tout simplement plus de données qui sont collectées et donc un meilleur profiling, la capacité d'entraîner d'ailleurs des modèles d'IA et donc finalement d'accroître encore la capacité à mener cette guerre de l'attention.
Et il n'y a pas un risque de dilution aussi de l'expérience utilisateur un petit peu, parce que TikTok, on est habitué, enfin pour pareil, moi j'ai pas de compte TikTok ou très peu, enfin via BFM Business, on est habitué à des vidéos courtes, là tout d'un coup ça change un petit peu.
Ça change, mais à la fois il y a un changement pour TikTok, mais on peut imaginer quand même mettre en avant l'expérience du voyage, de l'hôtel. C'est assez facile à raconter. Après, est-ce qu'ils pourront étendre ce type de choses à énormément d'activités de business? Bon, au bout d'un moment, si tu vois une vidéo d'une minute ou de deux minutes, quelqu'un qui tond sa pelouse, je suis pas certain que ça soit démesurément passionnant. Donc, il y aura clairement quand même un sujet de maintenir l'expérience d'origine, on va dire, sur TikTok. Et puis l'autre aspect, c'est que il y a quand même des enjeux aussi pour les Booking, Expedia ou d'autres sites, parce que aussi perdent un peu d'attractivité, parce que finalement ça n'est pas sur leur site où vont se dérouler le visionnage des fameuses vidéos de voyage, de tourisme et je sais pas quoi. Donc voilà, on est de nouveau sur cette guerre de maîtrise de l'audience, maîtrise de l'attention, durée d'attention, avec un seul enjeu qui est quand même maximiser la data qu'on peut collecter.
T'as un vrai sujet aussi, parce que là TikTok cartonne depuis des années, mais t'as aussi un sujet de quand t'es un réseau social, tu as le risque de demain n'être plus à la mode, en fait. Enfin, ce qu'on a vu avec Facebook, alors il y a d'autres usages aujourd'hui, mais t'as quand même un vrai sujet de
génération, d'être un jour disrupté par rapport à un autre réseau.
Exactement, et puis en fait tous les 5 ans, il y en a quand même un nouveau qui arrive, avec un nouveau concept aussi, parce que là TikTok c'était un peu le concept de la vidéo courte.
Oui, du pas... divertissement et tout ça, où tout d'un coup on se retrouve, il va gérer notre vie.
Ouais, mais je pense qu'ils sont obligés, parce que tu peux pas prendre le risque de te reposer sur tes acquis en disant que les gens continueront à aller sur ton application pendant des années pour l'offre de contenu que tu fais. En fait, c'est pas vrai. Demain, je te parie que dans 5 ans, il y a un autre réseau social qui sera arrivé, que certainement tes enfants utiliseront. Enfin, du coup, ils sont forcément obligés. Je me dis, quand t'es au top de ta forme comme ils sont actuellement, d'essayer d'innover, de lancer des trucs, quitte à se casser la gueule peut-être sur un ou deux trucs, tu vois. Mais moi, je trouve que personnellement, c'est une très bonne stratégie. Et aussi, tu parlais tout à l'heure de la difficulté en fait de demain, tu peux pas devenir un service financier comme ça. C'est vrai, c'est pour ça qu'ils font en Europe, aux États-Unis des partenariats avec les sites qu'on a évoqués. Et par contre, ce qui est intéressant, je pense à noter, c'est que au Brésil, ils ont demandé en fait
une licence fintech.
Et là, c'est très très intéressant, parce que quand tu regardes des acteurs comme Revolut, eux, ils se sont différenciés aussi des acteurs bancaires traditionnels par la simplicité de l'expérience usagée que tu as avait, et aussi par le fait de, ils te proposent un abonnement à X euros par mois, avec dedans un bundle, t'as ton abonnement à Amazon ou à Netflix. Enfin, tu vois, aujourd'hui, t'es obligé en fait de proposer plusieurs services, et peut-être qu'au Brésil, ils ont fait 2 demandes, ils sont en attente aujourd'hui. Si jamais ils obtiennent leur licence, ce serait quand même un énorme marché potentiellement qui pourrait faire guise de premier test de est-ce qu'ils pourraient proposer ce type de service financier demain.
Et puis j'imagine Luc aussi. Enfin, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Trouver les partenaires. Voilà, on peut être partenaire quand on est TikTok. Quand on commence à dire, ben c'est grâce à nous, vous allez louer vos bookings. Enfin, ce genre de choses. Là, c'est il faut redéfinir tout ça.
Ouais, il faut redéfinir. Et puis il faut que tu en fasses énormément pour couvrir le spectre que tu veux couvrir. Afin de quand tu as plusieurs milliards d'utilisateurs, je veux dire, il faut que tu couvres plein de pays différents qui ont plein de services différents où les gens veulent plein de trucs différents. Donc plein de choses différentes. Donc, c'est compliqué.
Ouais, c'est compliqué, puis sans compter la sécurité des données. Enfin, tu vois, si on est en France, Alain, autour du RGPD, là, il faut faire attention à ça, mais dans d'autres pays, c'est d'autres régulations.
Bah, de toute façon, oui, là, on parle bien de la division américaine de TikTok qui démarre là-dessus. Hein, donc, est-ce que ça sera réellement étendu à tout l'écosystème TikTok? C'est pas sûr non plus. Hein, donc, mais oui, il y a énormément en fait, de contraintes réglementaires. Mais au-delà de ça, il y a vraiment. Moi, je crois que dans cette transformation, c'est surtout que TikTok se dit c'est une affaire de génération. Aujourd'hui, j'ai une génération assez captive sur ma plateforme qui vient naturellement me voir. Je vais essayer de rentabiliser cette génération-là, cette audience-là, le plus possible, en testant tout un tas de fonctionnalités. Il y aura effectivement peut-être des choses qui vont fonctionner, d'autres moins. Mais l'enjeu, c'est quand bien même ça dure le temps d'une génération, bon, un business model que tu es capable de développer sur 20 ans parce que tu as une audience captive, ça reste un bon business model, on va pas se mentir non plus. Donc, quand bien même il y a un nouveau réseau, imagine dans 5 ans un réseau social européen. Génial.
Oui, moi je me demande toujours, j'attends toujours Spotify. Alors Spotify, on le fera jamais, mais moi je me dis, mais Spotify, vous devriez y aller. Enfin,
oui, j'allais te dire, tu les as appelés. Parce
que... ouais, bah, à chaque fois, je leur dis, mais ils disent, mais non, c'est pas notre métier. Et alors justement, habile transition, parce que nous allons parler de streaming musical, voilà. On va parler de Tidal. Tidal, vous les connaissez peut-être oui, peut-être pas. En tout cas, Tidal, c'est une plateforme de streaming et ils ont décidé de frapper un grand coup en supprimant les royalties pour la musique 100% générée par IA avec un étiquetage obligatoire. Donc, une décision assez audacieuse, éthique, on peut juger ça comme ça. Et alors, toute musique 100% générée par IA à partir du 30 juin, à partir d'aujourd'hui, voilà, ne sera plus rémunéré. Enfin, transparence. Parce que c'est vrai que chez les Deezer et Spotify, on sent que Deezer essaie de combattre ça, mais il y a tellement de titres créés, c'est compliqué d'être à jour. Alain, comment il faut voir cette annonce?
Alors, aujourd'hui, premier élément, on est rentré dans un monde où créer du contenu, que ce soit de la musique ou autre chose, c'est un coût qui tend vers zéro, et c'est un temps qui tend vers zéro aussi, à cause ou grâce à ces outils d'IA générative. Du coup, conséquence de ça, c'est qu'on a une abondance, mais colossale, de nouveaux livres qui débarquent sur Amazon, de nouvelles musiques qui débarquent sur les plateformes de streaming.
Là, conçues par des IA.
Entièrement conçues par IA. Bon. Ça, c'est le premier élément. Donc, effectivement, en tant que plateforme, elles ont la nécessité, avant d'être éthiques, de défendre leur business model. Je suis désolé d'être un peu prosaïque sur le sujet, mais évidemment, c'est compliqué finalement d'avoir du contenu, on va dire, généré par IA. On sait, parce qu'il y a des études qui sont réalisées sur le sujet, qu'un auditeur, on va dire, lambda, ne fait pas nécessairement la distinction entre un contenu généré par IA et un contenu généré par de l'humain authentique.
Et on l'a vu, puisqu'on on en a régulièrement parlé ici, notamment avec François Sorel, que voilà, il y a des groupes totalement IA qui ont été premiers au box-office, dans la
couture,
je parle aux États-Unis.
Mais la réalité, c'est que tu peux faire du très bon contenu musical en utilisant de l'IA. Et c'est là où on va voir que c'est un peu compliqué comme sujet. Donc, il y a vraiment la défense, déjà, de leur business model. Après, quand tu regardes ce qu'a dit le bureau du copyright américain sur le sujet, c'est assez facile, c'est que s'il y a une intervention humaine suffisante, alors tu peux poser un copyright et donc revendiquer une forme de
création humaine.
Création humaine. Et là, on voit bien que, en fait, on est face à une boîte noire. Parce que, quelle que soit la plateforme, quand elle met en place un filtre, on ne les connaît pas, les critères. Moi, je m'amuse, parce que pour le coup, la musique, c'est une de mes passions. Donc, je m'amuse à créer des musiques.
Tu as fait une musique
avec IA. J'en ai fait plein maintenant.
Oui, mais tu avais fait un carton une fois.
Ouais, aujourd'hui, en l'occurrence, l'hymne non officiel pour les JO a été écouté plus de 8 millions de fois sur TikTok.
Ouais.
Bon, pour un truc fait en 3 heures, je suis musicien à la base, donc j'avais. Enfin, voilà, mais quand même, ça soulève énormément de questions. Mais du coup, tu vois, sur le filtre, quand bien même tu es sur un processus qui respecte la loi au sens du copyright, du bureau du copyright américain, tu te retrouves filtré par les plateformes sur la base de critères qui sont quand même tout sauf transparents.
Oui.
Et cerise sur le gâteau, j'ai fait le test. En fait, ce système-là, tu peux aussi les contourner, c'est-à-dire que la fiabilité de ces systèmes et encore
peut-être
à prouver.
Tu as utilisé l'IA ou
donc
pas.
Aujourd'hui, on a quand même un écosystème autour de la musique qui est très embêté parce qu'il y a tout ça qui se joue en même temps. Et après, est-ce que finalement on a besoin de cet étiquetage? Oui, je pense que c'est une bonne chose, notamment une des positions, c'est de dire bah, c'est compliqué de diffuser des musiques qui ont été entraînées sur des musiques soumises à droit, dont les artistes et les auteurs ne sont pas rémunérés. Enfin, c'est quand même ça aussi le point de départ. Et ce truc-là, il est toujours pas tranché. T'as les grands groupes, les grands labels qui ont démarré des procès, mais on n'a pas l'aboutissement du procès. Tu as en France une exception où on essaye, c'est actuellement au Sénat, la SACEM pousse une loi d'inversion de la preuve, c'est-à-dire plutôt que de partir du principe que les outils d'IA n'ont pas utilisé les droits, enfin les titres soumis à droit, on va partir du principe qu'elles ont utilisé et charge à ces entreprises-là de prouver que non. On voit apparaître dans l'écosystème des générateurs à base de titres non commerciaux. Bon, spoiler, c'est moins bien. Voilà, tout ça est en train de se jouer, mais parce qu'en fait, on est dans une reconfiguration massive de, finalement, notre consommation de contenu avec des outils qui nous permettent de générer du contenu à foison. Ouais.
Plusieurs points pour rebondir. Le premier étant que je trouve que c'est un beau coup marketing de la part de cette plateforme Tidal, parce que à titre personnel,
on la connaissait moins.
Ouais, on la connaissait moins. Donc déjà maintenant, on en parle ce soir et dans les médias. Ensuite, pour donner quelques chiffres, Deezer avait communiqué récemment que 44% des nouvelles musiques qui apparaissaient au quotidien sur la plateforme étaient, selon eux, générées avec de l'intelligence artificielle. Donc, on parle quand même de volumes vraiment colossaux. Et ensuite, je pense que l'IA va nous montrer à quel point l'industrie de la musique va continuer à se transformer. Oui. Déjà, avec le streaming et les abonnements à 8-10 euros par mois qu'on paye tous pour écouter de la musique, on voit aujourd'hui que pour les vrais artistes, donc les humains, aujourd'hui la vache à lait, c'est vraiment les concerts. Quand tu regardes le prix en fait des tickets de concerts pour des artistes plus ou moins connus, d'ailleurs c'est devenu excessivement cher et aujourd'hui ça représente une grosse partie en fait des revenus pour les artistes et pour les labels d'ailleurs. Donc je pense que cette traîne qu'on voit aujourd'hui avec l'IA ne fera que accélérer cela. Et pour rebondir sur ce que tu disais, moi à titre personnel je suis quand même partisane sur voilà, le fait qu'il y ait un espèce de, je sais pas, de filtre ou une espèce d'indication que effectivement ça a été fait avec de l'IA. Après, c'est vrai ce que tu disais, à quel degré vraiment l'IA a été utilisée.
C'est la difficulté de savoir.
C'est la difficulté. Et puis au final, on reste, enfin, tu restes quand même créateur aussi. C'est toi qui crée quelque chose, même si c'est fait avec de l'IA, mais c'est par rapport à ce que tu as demandé aussi. Donc je pense que tous ces débats qu'on voit aujourd'hui vont être rapidement tranchés. Et ce qui est drôle, c'est que notamment sur les livres, par exemple, tu l'as évoqué, il y avait des questions de la part des régulateurs européens, notamment ça il y a quelques années, moi quand je suivais le secteur des livres pour le Figaro, est-ce que c'est eux qui allaient trancher sur le fil que tu dois mettre, IA, etc. Et en fait, on voit aujourd'hui que tous les acteurs commerciaux font individuellement leur choix et qu'il y aura pas forcément une réponse pour que tout le marché devra appliquer.
Alain. Et le sujet va être de plus en plus complexe parce que l'IA descend dans le processus créatif. C'est-à-dire que quand on dit j'interdis les titres 100% IA, oui, effectivement, si tu es sur un titre fait avec un prompt assez basique qui te génère un truc assez basique, et ça, honnêtement, c'est comme ça que ça marche. Mmh. Tu fais du basique en entrée, tu as du basique en sortie, pas grand-chose de créa là-dedans. Ça, c'est plutôt assez pertinent. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, tu peux insérer de l'IA dans énormément d'aspects très précis de ta production. Du coup, ça génère une empreinte IA qui peut être détectée positivement par les algorithmes, alors qu'en fait, t'as un vrai processus créatif derrière. C'est là où il y a un sujet, en fait.
On voit ça dans le cinéma. Là, un ami là qui fait beaucoup de films cinéma, c'est des séances assez courtes, mais finalement, il est très créatif parce qu'il dit, tiens, telle partie, je veux la filmer avec une caméra, avec un effet de la caméra Sony, numéro je sais pas quoi, parce qu'elle donne un peu ce ton-là. Luc, ce qu'il faut voir aussi, et toi tu es bien placé pour le dire, c'est que cette IA aussi, ça permet d'ouvrir aussi, de s'ouvrir. On se sent pas trop créatif, on dit tiens, j'aimerais bien jouer de la musique, être un peu créatif, et on va utiliser l'IA.
Moi je fais attention au vocabulaire hein, toujours, donc déjà pour l'instant je dis toujours que l'IA ne crée rien, hein, donc, c'est pour ça qu'on l'appelait IA générative, l'IA génère. Elle génère ce que moi je crée potentiellement, d'accord. Donc il y a divers niveaux de création et de créativité, effectivement, c'est-à-dire que je parie aujourd'hui, et sans aucun problème, je suis sûr de gagner, que toutes les musiques, d'une manière ou d'une autre, il y a de l'IA dedans. Ouais. Toutes, de toute façon. Parce que pour aller retoucher un truc, pour aller, je veux dire, avec tous les logiciels qui sont derrière, machin, ça, de toute façon, il y a de l'IA. Donc ça ne veut plus rien dire.
Oui, même dans la musique, la guitare va être
corrigée. Avant, on disait l'électro, machin, un truc, je veux dire. Il y a de l'IA dans toutes les musiques. Maintenant, ce que disait Alain, c'est tout à fait correct. C'est-à-dire que tu peux faire un prompt de merde, ça va te donner une musique de merde, d'accord ? Et ça va te donner un truc plat, non intéressant et tout ça, mais que les gens ont écouté parce qu'il y a des gens, ils s'en foutent, d'accord ? Et puis tu peux faire des trucs super sophistiqués, comme tu l'as cité par exemple avec ton cinéaste, où tu peux faire des trucs super léchés, tes prompts sont des prompts qui font des pages et des pages qui expliquent exactement ce que tu veux, et là c'est toi qui crées, parce que c'est toi qui, tu as cette vision, c'est toi le créateur, c'est toi qui maîtrises le truc, mais parce que t'es un musicien, parce que tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. Moi je suis nul en musique. Je peux te dire un truc, je peux t'assurer que je peux faire le plus beau prompt du monde, que ce que je vais débiter comme parole pour pouvoir dire, expliquer ce que je veux faire, à la fin, ça va être caca.
Ça ne sera pas dans les charts ni français, ni américains. Allez, on termine. Merci en tout cas d'avoir suivi ce sujet-là. On termine avec, on va partir dans l'espace. Alors, on y sera dans l'espace dans quelques minutes, puisque aux alentours de 20h45, nous recevrons la start-up TrustMe. Vous allez voir, c'est passionnant ce qu'ils font aujourd'hui. Vraiment, c'est un laboratoire issu de Polytechnique et du CNRS. Et ça y est, ils ont créé leur société. Enfin, vous allez voir, il y a des choses incroyables. Et là, c'est Rocket Lab. Alors, Rocket Lab, c'est l'entreprise qu'on n'avait pas vu venir. D'ailleurs, peut-être qu'ils ne feront que passer comme une roquette, parce qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent aujourd'hui. Ils sont capables de sortir. Ils annoncent qu'ils vont sortir 8 milliards de dollars pour acheter, tiens, quelque chose qu'on connaît mieux, c'est le réseau Iridium pour 8 milliards de dollars. Donc, on va voir. Alors, Rocket Lab, eux, ils ont des capacités de lancement. Et puis, ben, Iridium, c'est des satellites. Et leur objectif, bon, vous l'avez compris, hein, c'est d'aller concurrencer les Starlink Alain.
Ben, c'est génial, parce qu'avec ce mouvement-là, ils n'ont même plus de lancement à faire. Non, mais du coup, tu vois, en fait, effectivement, l'enjeu, c'est d'aller rentrer en compétition avec les Starlink et autres acteurs hein, du sujet. Ils achètent effectivement un acteur déjà en place avec une constellation de satellites.
Avec les fréquences, hein, c'est ça qui est important aussi.
Ouais, c'est ça. Donc, après, compte tenu de leur activité, c'est vrai que c'est un peu étonnant parce qu'ils sont déficitaires. Donc, de là à aller chercher 8 milliards à mettre sur la table pour acheter, bon, c'est. Voilà,
moi, c'est. Et puis pour ceux, moi qui fais un peu de bateau, Iridium, c'est surtout quand on est un peu paumé. Au milieu de l'océan qu'on utilise. Enfin, c'est
ah bah, le principe d'Iridium, c'est effectivement, tu peux appeler n'importe quel point de la planète et souvent les points les plus éloignés. Hein. Enfin, ça a été le truc de base. Donc, j'ai pas eu le temps de regarder hein, les caractéristiques techniques de la constellation de satellites, mais en tout cas, on voit bien quand même qu'il y a aussi un sujet aussi, en termes de nouveaux territoires géopolitiques et de convergence autour des technologies et des enjeux géopolitiques. Bah, c'est quand même la maîtrise de l'espace, la maîtrise des télécoms depuis l'espace, dans l'espace. Et là aussi, ça serait probablement assez intéressant qu'on se réveille un peu en Europe.
Ils donnent quelques chiffres. Hein. Ils disent, alors la réaction boursière, c'est plus 16% pour Rocket Lab, plus 25% pour Iridium. Rocket Lab dit, on a un carnet de commandes qui est déjà plein. On va fournir 400 à 500 systèmes par an et ça va doubler chaque année. Notre cible, c'est les professionnels, hein, les médecins, les notaires, les téléconsultations, les marchés gouvernementaux. Là où Starlink est moins présent, voilà, ils visent ce côté B2B. Luc, comment tu vois ce marché de la space tech qui est en train, alors évidemment, qui a été boosté par un certain Elon Musk avec ses fusées. On connaissait évidemment ce géant, la NASA, et puis là, on a eu Elon Musk qui est venu tout bousculer. Et puis aujourd'hui, ben, on voit, il y a quand même pas mal de start-up qui viennent se positionner là, sur ce secteur.
Alors, Elon Musk est venu tout bousculer, mais enfin, il a quand même bien bénéficié de la NASA. Hein.
Oui,
donc, faut le rappeler. Il faut aussi un tout petit peu respirer là. Bon, moi, je connais que dalle, hein, ouais, dans les satellites.
Mais en tant qu'ingénieur, t'es toujours un peu fasciné,
ouais,
quand
ouais,
même.
Par, voilà, je suis fasciné par les bêtises qu'on peut raconter, oui, et ce qu'on veut faire, par exemple, aller coller des data centers sur Mars.
Ouais, ça.
Ça, je suis fasciné, oui. je suis effectivement fasciné. Mais je pense que, bon, le business model de ces gens-là, je le connais pas, mais sachant qu'ils perdent des sous aujourd'hui et qu'ils veulent mettre 8 milliards pour acheter un truc, moi, ça me semble, enfin, encore une fois, un truc à la OpenAI, où je perds beaucoup d'argent et j'ai pas de business model, donc ça me l'air bien.
Surtout qu'on voit beaucoup, hein, je regardais un peu les consolidations. Il y a Amazon qui a racheté Globalstar pour 11 milliards 6. Il y a Lockheed Martin qui a racheté Terran Orbital. Alors ça c'était en 2024. Viasat a racheté Inmarsat en 2023. Donc voilà, on sent qu'il y a cette consolidation. Après, comme tu dis, hein, les data centers, quand on parle à des spécialistes, sont moyennement persuadés de la réussite du bazar. Vaut mieux les envoyer sous l'eau que les envoyer dans,
ouais,
l'espace.
Déjà, hein, sous l'eau, il y a eu des expériences qui étaient malheureuses, ouais, qui ont été malheureuses. Donc j'imagine même pas ce que ça veut dire sur Mars, quoi. Mmh. Et même dans l'espace seulement, parce qu'on imagine aussi, parce que Musk imagine aussi quelques data centers en orbite. Je veux dire, les temps de
liaison, puis le refroidissement, il y a pas d'air.
Ouais, mais non, mais enfin, je veux dire,
un système,
quelque part, quand tu parles avec des gens après qui sont dans le domaine, ils disent oui, mais c'est des technologies qui n'existent pas aujourd'hui, qui vont exister bientôt. Ah bah bonne chance les gars, d'accord. Moi je suis un innovateur, donc je suis content. On va faire des trucs, mais là il va falloir faire vraiment des trucs.
Je veux dire.
Oui, bah comme tu le disais, on voit beaucoup de consolidation dans le secteur. On voit une volonté d'être plus intégré de façon verticale. Et aussi, après, pour donner d'autres chiffres, aujourd'hui, l'entreprise qui rachète, ils ont à peu près 2,5 millions d'abonnés. Moi, je me pose la question du potentiel d'abonnés aussi, franchement. Parce que même quand on voit en Europe aussi les abonnés, par exemple, de Starlink, est-ce que vraiment il y a un énorme marché pour ça? Je sais pas. Parce qu'il y a vraiment des besoins énormes là-dessus. Est-ce qu'il y a un énorme marché pour ça? Je suis pas sûre. Et après, 8 milliards.
Il y a des marchés spécifiques, tu vois, dans la défense, dans l'IoT. Nous,
oui,
on appartient au groupe CMA-CGM, donc qui vient d'ailleurs de lancer le plus grand porte-conteneur il s'appelle Notre-Dame. Il fait 24 000, il transporte 24 000 conteneurs. Allez voir les photos sur Internet. On parle pas seulement parce que c'est notre actionnaire, mais rien que là, c'est un monstre. Enfin, c'est immense. Mais rien, voilà, pour le transport maritime, voilà, on a besoin de liaisons. Et ça peut y répondre.
Et après, tu sens aussi, ces 8 milliards, ils sont déficitaires. Il y a des banques aussi qui prêtent derrière. Et ça montre quand même cette acquisition aussi, la frénésie qu'il y a aujourd'hui dans le secteur financier pour financer, faire partie de la moindre activité qu'il y a dans ce secteur spatial. Et c'est assez fascinant. Et pour certains, je me dis qu'ils font ces paris, qu'ils mettent beaucoup d'argent sur la table, à voir dans 10 ans ce que ça donne. Et après, la rapidité à laquelle on va pouvoir voir ces innovations se créer et puis après trouver leur marché. Là, c'est assez certain.
C'est vrai ce que tu disais, parce que ne serait-ce que pour le tourisme spatial, on dit vous allez voir tous les milliardaires vont se précipiter,
ouais,
pour aller dans l'espace, à part les derniers lancements, enfin à moins qu'il y en ait des secrets, mais j'en ai pas vu beaucoup aller faire un tour dans l'espace.
Je suis d'accord, mais c'est ce qu'il te disait il y a 10 ans.
On a eu 2-3 lancements,
ouais,
c'est
ouais,
en il y a 8-10 mois, mais depuis. Ouais. Et puis, autre équation, alors je sais que pour certains ça les inquiète un peu moins, l'équation environnementale, parce qu'une fusée qui décolle, ça fait quand même beaucoup d'ergol, enfin de tout ça, de tous ces carburants brûlés. Et on va en reparler justement de ces carburants dans un instant avec TrustMe qui fabrique des moteurs électriques pour des satellites, notamment au Japon. Mais l'entreprise, elle est bien française. On recevra dans un instant sa fondatrice. Et puis on parlera aussi dans un instant de Spokeo, qui est un casque pour communiquer plus simplement avec les malentendants. Voilà, c'est pour les troubles auditifs. Et puis bien entendu, le Tech Flash de Léa Benaïm, c'est dans un instant. Il nous reste à vous remercier tous les trois. Luc, Julia, merci infiniment d'être passés par le plateau de Tech & Co. Alain Goudet, directeur général adjoint de Neoma Business School, merci. Alain, c'est la fin de l'année scolaire, mais voilà, il faut déjà préparer la suivante.
Exactement.
Avec des étudiants, on entend beaucoup des étudiants de commerce qui tendent beaucoup vers l'IA. On entend beaucoup aujourd'hui qu'on va être beaucoup plus généraliste de ce côté-là.
On hybride de plus en plus les compétences, très clairement.
Et qui ont des difficultés à trouver un travail?
Pas plus que ça.
Non.
Eh bien, il faudra qu'on fasse une émission là-dessus.
Oui, eh bien.
Pour débunker ça.
Oui, oui. Ben, on le fera la rentrée. Mais il y avait une étude d'ailleurs, je crois. C'est toi qui l'avais sorti de dire que finalement, les entreprises qui investissent dans l'IA, elles continuent quand même à embaucher des jeunes. Et c'est pas plus mal parce qu'il faut préparer la suite. Hein. Claudia Cohen, journée chez Bloomberg. Merci d'avoir été avec nous.